session de théologie du Père Philippe à Saint-Chaudard le 12 août 88.
C'est le dernier jour de réflexion par rapport à la session. C'est pas le dernier jour de notre pèlerinage terrestre, mais c'est le dernier jour de notre réflexion ici. Il reste encore beaucoup de choses à voir, vous voyez. Tant mieux. Question ici, pouvez-vous nous dire la différence entre sagesse et sainteté ? En Dieu, c'est identique. Faut toujours dire ça. Le mot sagesse provient dans son origine d'un point de vue beaucoup plus philosophique. La sagesse grecque, le mot sainteté est beaucoup plus évangélique. C'est toujours intéressant de voir ce que ça charrie. Le mot sagesse montre le point de vue de l'esprit et de l'intelligence qui atteint le bien ultime et dernier qu'on contemple. La sagesse est liée à la contemplation. La sainteté, c'est lié à l'amour. L'amour à l'égard de Dieu, l'amour à l'égard du prochain. Ce que ne dit pas la sagesse. La sagesse est liée à Dieu, mais pas liée au prochain immédiatement. Au fond, ce qui est intéressant dans ces deux expressions, c'est de voir que pour nous, il y a une différence entre notre capacité de connaître l'intelligence et notre capacité d'aimer notre volonté. Poussé à l'extrême, notre capacité de connaître, c'est la sagesse. Poussé à l'extrême, notre capacité d'aimer, c'est la sainteté. Je crois que c'est peut-être ça qui nous ferait le mieux comprendre la différence entre sagesse et sainteté. Oui, on touche quelque chose d'ultime. Du côté des deux grandes orientations de l'esprit, intelligence, amour. Alors, le père Festugière, dominicain, qui maintenant est dans la béatitude, faisait une opposition, que je n'aime pas beaucoup du reste, mais je le dis parce qu'il faut être honnête, entre sagesse grecque, contemplation grecque et sainteté chrétienne. Et pour lui, c'était très net. Il y avait deux aspects un peu irréductibles. Alors, ceci, ça fait partie un peu de certaines perspectives telles qu'on les voit dans Hegel. Hegel oppose très profondément le sémite et le grec. Et le père Festugère, sans trop le savoir, ça, il ne savait pas. Je l'ai bien connu. Le père Festugère avait une tête grecque. C'est extraordinaire. Ces traductions du père Festugère sont remarquables. Il a fait un très beau livre sur la sagesse chez Platon. Très beau livre. Mais il ne comprenait rien à Aristote. Et avec Platon. Alors, il exalte Platon dans la sagesse à Platon. C'est un livre qu'il faut lire, la sagesse de Platon, de Festugère. C'est un très très beau livre. C'est un livre qui a de la grandeur, si vous voulez. Peut-être pas toujours, on dirait peut-être pas toujours les mêmes choses exactement, mais c'est grand. Festugère avait de la grandeur. C'était pas. C'est quelqu'un qui avait une espèce de conviction profonde. Et le père Festugère alors pousse cette opposition entre sagesse et sainteté au fond dans la même perspective que Hegel quand il parle d'Abraham le croyant et le grec l'homme libre. Le croyant qui est dépendant de l'autorité et l'homme libre qui est autonome. Alors vous voyez, ce sont ces distinctions. C'est intéressant, il ne faut pas les pousser trop. Parce que, si vous êtes attentif, vous voyez quand même que le peuple d'Israël, et c'est le propre du peuple d'Israël, d'avoir assumé d'une façon remarquable, c'est peut-être le propre du génie d'Israël, le génie juif, d'assumer les diverses civilisations dans lesquelles il s'implante. De sorte que, pour un sémite, l'opposition que donne Hegel est très fausse. Vous avez les livres sapientiaux. Ça existe dans la Bible. C'est l'influence grecque. Il n'y en a pas mis à côté. On les a intégrés. Saint Paul, sémite, pharisien, il le sait. Toute la culture grecque. Alors quand on dit que c'est les théologiens qui ont fait ça, mais non, soyons un peu intelligents. On fait des cadres, on projette au fond ce qu'on a au-dedans de nous-mêmes sur les autres. Saint Paul, mais il est grec, toute la culture grecque. Il est sémite. Ça ne le gêne pas du tout. Ça ne l'a jamais gêné. Et il parle de la Sophia, de la sagesse de la croix. Alors chez Saint Paul, sagesse de la croix et sainteté, ça ne fait qu'un. Sagesse de la croix et sainteté, ça ne fait qu'un. Deux choses différentes. On aurait dit à Saint Paul que Sophia c'est grec et sainteté c'est sémite. Saint Paul aurait regardé, mais soyez intelligent quand même, quoi. Est-ce que parce qu'on aime, on n'est plus intelligent? Mais non. Parce qu'on aime, on va être encore plus intelligent. Et plus on aime, plus on va être intelligent. Et donc, si l'agapé, si l'amour de Dieu nous est donné, on va aller encore plus loin dans la recherche de la vérité et dans la recherche de la sagesse. Mais évidemment, la sagesse chrétienne à travers la croix n'est pas la même que la sagesse d'Aristote et de Platon. Et c'est pour ça que saint Thomas, qui lui est sémite et grec, puisqu'il est italien, il est sémite et grec, il est sémite parce qu'il est chrétien. Nous sommes tous sémites. En tant que chrétien. Et il est grec, parce que il est intelligent. Et c'est bien que le berceau de notre culture, c'est la Grèce. C'est elle. Pour moi, c'est une bêtise sans nom de s'opposer à la Grèce. Quand on sait que toute la culture, que tout ce que nous avons, vient de la Grèce. J'entends encore Gilson. C'était une conférence qu'il faisait à Rome, me dire, vous allez voir, père, hein, cette conférence que je fais ici en Italie, je vais leur montrer que le latin n'a rien apporté. Tout vient de la Grèce. C'est très vrai au point de vue de la pensée. Le latin a apporté le droit canon. Le latin a apporté le droit. Le jus gentium. L'organisation. Et le latin n'a rien apporté au point de vue profond, point de vue culture profonde, parce qu'on ne peut pas dire que le droit canon, c'est la culture. Ce sont les barrières, c'est très important, il faut ça. Il faut se clôturer. Mais, c'est pas la culture. Et ça, c'est vrai que c'est la Grèce qui a porté et transformé le génie latin. Le latin seul aurait été assez court. Regardez la sculpture latine et la sculpture grecque, quoi. Vous voyez tout de suite. Mais le cocktail des deux est magnifique. Ça fait quelque chose de très grand. Et ça a fait toute notre grande culture chrétienne. Latin, le grec et le sémite. Les trois. Inséparablement unis. Mais c'est nous qui sommes beaucoup trop historiens et qui ne sommes pas assez au niveau de la sagesse. On ne voit pas que l'intelligence assimile. Et une fois qu'on a assimilé, c'est nous. Qu'on tienne ça des Grecs, qu'on tienne ça des Latins, qu'on tienne ça des Sémites, qu'est-ce qu'on cherche ? La vérité. Et on n'a plus assez d'audace pour dire comme ça, Augustin, toute vérité est catholique. Je trouve ça très beau. Le catholique, partout où il y a la vérité, il apprend. Je ne cherche pas de savoir si ça vient des Sémites, si ça vient de la Chine, ça vient... Mais non, c'est la vérité. Et la vérité, on la cherche. On est amis de la vérité. On ne va pas mettre des étiquettes. Mettre une étiquette en disant mais c'est faux. C'est la sagesse. C'est la vérité. Et c'est ça qui est notre bien. Alors, je comprends très bien qu'on se pose la question sagesse et sainteté. Mais alors, voyez, la sagesse de la croix, c'est notre sainteté. La contemplation de la croix, c'est notre sainteté. Le don de nous-mêmes aux pauvres dans la miséricorde, c'est notre sainteté. Notre sainteté a sept modalités, les sept esprits de Dieu, les sept dons du Saint-Esprit. Et notre sainteté a sept modalités qui, dans le Christ, tout est uni et tout éclate à la croix. Parce qu'à la croix, Jésus vit des sept dons du Saint-Esprit. Il les vit, et il les vit pleinement, et il vit des béatitudes. Alors, on ne peut plus opposer dans le Christ. Le Christ a une intelligence plus grande que celle des Grecs. Et il a un cœur plus grand que celui des Sémites, puisqu'il est Dieu. Mais s'il n'a pas refusé de parler aux Grecs, il n'a pas dit, sale grec, vous venez là. À Jérusalem, vous n'êtes pas des sémites, qu'est-ce que vous faites là ? Jamais dit ça, au contraire. Très heureux de rencontrer des grecs. Et Jésus parlait grec à Jérusalem. Beaucoup de gens, puisque c'était la langue commune. C'était la langue cultivée, le grec, à l'époque de Jésus. Vous voyez, nous sommes petits, nous, de mettre des attachements trop grands à des aspects seconds. Il faut penser qu'on parle grec, latin, français, italien, polonais. Aucune espèce d'importance de tout cette pensée. Celui qui parle latin et qui ne pense plus, ça fait des cruches. Celui qui parle français et qui ne pense pas, c'est une cruche. C'est tout. Vous voyez, on est terriblement positiviste. Mais terriblement. Et ces querelles d'aujourd'hui, ce sont des querelles positivistes. C'est plus des querelles humaines. C'est pas humain. On cherche la vérité. C'est ça qu'on cherche. Et on veut, on sait que Jésus nous donne la vérité. Vous voyez, c'est là où on sent l'aération hein, profonde que doit nous donner la foi. Et que doit donner la philosophie. Le philosophe, il n'est pas grec, il est homme. Le philosophe, il n'est pas français, il est homme. Ça lui est égal qu'il soit français, qu'il soit italien, qu'il soit même européen et asiatique et au-dessus. Ça nous intéresse de rencontrer un asiatique. Ça m'a toujours beaucoup intéressé d'avoir comme étudiant des asiatiques. Parce que il y a une manière différente de regarder les choses. Ce qu'elle touche, c'est de chercher la vérité. Bon, voilà le prélude. Allons maintenant continuer à entrer dans ce que représente le point de vue du mystère de la croix. Vous taperez au bout d'une heure, parce que j'ai oublié ma montre encore. Parce que, comme ils suivent trop bien, si au bout d'une heure tout se mettait à dormir, je saurais que c'est l'heure. Mais je ne veux pas trop dépasser. Je vous disais hier cette chose très importante. Quand on regarde le sommet de toute l'économie divine, c'est la croix. Donc tout doit être vu dans la lumière de la croix. Et c'est ce que dit saint Paul quand on dit « sagesse de la croix ». Là, saint Paul et saint Jean se disent dans le sommet. Saint Jean n'est pas grec du tout. Il est sémite. Terriblement sémite. Il parle grec, mais c'est pas le génie grec. C'est le génie sémite. Tandis que Saul de Tarse est grec. Comme Moïse est égyptien. Tout en étant sémite. Tout en étant hébreu. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça a tout assumé. La croix sommet, la grande lumière. Oui, c'est le phare qui éclaire tout. Tout le passé et tout ce qui vient après. Vous voyez, dans une grande vision de sagesse, on peut dire d'Adam au Christ, nouvel Adam. C'est pour ça que c'est terminé. Cette manière de parler est si belle. Une grande montée. Ici, Abraham. Parce que ici, la première montée est très obscure. Les 11 premiers chapitres de la Genèse. Très obscure. La grande montée, avec toutes les alliances. Ça, oui, l'Église nous demande, hein, avec cette préface de toutes les alliances, l'Église nous demande d'être attentive à toutes ces alliances pour comprendre l'alliance suprême, la croix. Sagesse et sainteté. La sagesse et la sainteté se sont embrassées. Vous voyez, ça, c'est très vrai, à la croix, dans l'unité. Alors, on peut être plus sensible à la sainteté, on peut être plus sensible à la sagesse. Chacun d'entre nous, on a des sensibilités différentes. Les uns, c'est la lumière, les autres, c'est l'amour. Faut pas séparer. Faut simplement voir comme ça. C'est vrai. Deux aspects très différents. Sagesse, sainteté. Bon, la croix. Puis ensuite, vous voyez, toute l'Église, ça, tout provient de la croix. L'Église n'a pas d'autre sagesse que la sagesse de la croix. C'est à la croix où se fait cette recréation. Alors, je vous disais, pour bien comprendre l'œuvre de la croix, regardons le mystère de l'incarnation. Pour comprendre que Dieu, dans sa sagesse, quand il veut sauver l'homme de la manière la plus miséricordieuse qui soit, et de la manière la plus parfaite qui soit, Dieu veut que ce soit à la fois l'œuvre d'un homme et de Dieu. C'est beau quand l'homme et Dieu font la même œuvre. Dieu le Créateur. Ah, à la croix, ils font la même œuvre. Et c'est pour ça que la croix dépasse tellement tout ce que nous pouvons nous faire. Et quand on ne veut pas regarder la croix comme sagesse, eh bien, il y a quelque chose qu'on ne comprendra jamais. à la lumière de la croix que tout s'explique. Croix glorieuse, hein, comprenez bien, la croix portant la semence de la gloire. La résurrection, c'est sûr, la croix glorieuse. Et quand je dis la croix glorieuse, c'est très important, parce que c'est le regard intérieur du croyant sur la croix. Vu de l'extérieur, le verrou, la croix est le plus terrible des échecs. Vu de l'intérieur, c'est la plus grande des victoires. Et les deux sont unis. Et c'est ça qui est si extraordinaire. Je comprends très bien que pour les artistes, la croix séduit de façon étonnante. Parce que les contrastes aussi violents sont unis dans une unité unique. Jamais été quelque chose aussi extraordinaire. Or, la croix nous est donnée. L'Eucharistie nous donne la croix. La croix glorieuse. Donc c'est le pain quotidien, la croix, pour le chrétien. C'est pas quelque chose de lointain. C'est quelque chose d'immédiat que nous touchons dans notre foi, dans notre espérance et notre charité. Et nous naissons à la croix. Nous sommes contemporains de la croix. Chacun d'entre nous, en tant que chrétien. C'est le titre de noblesse. Notre titre de noblesse est d'être né à la croix. Et d'être relié à la croix. Et que la croix est pour nous le lieu de notre naissance à la vie divine. Et que la croix glorieuse est le lieu de notre gloire. Un jour, nous serons glorifiés dans la gloire du Christ. Et nous vivons maintenant dans la vie du Christ crucifié. Cette recréation est une reprise radicale de tout. Ce que nous allons voir. Mais alors, avant de voir ça, je veux quand même insister, avant de voir ça, j'insiste, Dieu aurait pu sauver l'homme autrement. Alors, ce serait très intéressant de voir tous ces autrement. Dieu aurait pu sauver l'homme autrement. Il aurait pu sauver l'homme simplement par un pardon. Dieu est capable de pardonner. En voyant la faiblesse de l'homme. En voyant que le frère aîné, que voulez-vous, a attaqué le petit Benjamin. Dans une famille, quand le frère aîné est arrivé à corrompre le petit Benjamin, qu'est-ce qu'on fait? On punit le frère aîné, brutalement. Tu continues comme ça? Va-t'en. Quitte. On a chassé Satan du ciel. Hein? Allez, quitte la maison. On l'a rejeté sur la terre. C'est vraiment ça. Et puis, le petit Benjamin, on se penche vers lui, avec beaucoup d'amour. Il dit, mais non. Il t'a trompé, il t'a séduit. C'est pas ça du tout, c'est pas là ton vrai bonheur. Alors, ça peut se faire de multiples manières. C'est ce que Dieu fait comme père. Regardez la parabole de l'enfant prodigue. La parabole de l'enfant prodigue montre ça admirablement. Dieu s'est penché sur ce petit enfant prodigue. Attends, c'est le petit enfant prodigue. Hier, encore plus, la petite fille prodigue. La petite fille prodigue. Parce que la petite fille prodigue, elle est encore plus prodigue que là, que qu'Adam. Elle est descendue encore plus bas. Et alors le père se penche vers elle avec encore plus d'amour. Derrière l'enfant prodigue, il y a la petite fille prodigue. Faut pas l'oublier. Et la petite fille prodigue, il faut l'aimer avec encore plus d'amour. Et se pencher vers elle encore avec plus de tendresse. Tout ça est présent. Si je veux le comprendre. Alors Dieu aurait pu recevoir l'enfant prodigue en pardonnant tout et en tuant le veau grand. Ce qu'on voit selon la parabole. Et c'est le père qui prend tout sur lui. Et le fils aîné est furieux. Le fils aîné est furieux parce qu'on n'a jamais vu ça pour lui. Le fils aîné ne peut pas supporter la gratuité d'amour. C'est une gratuité absolue, complète, merveilleuse. C'est beau, ça. Ça aurait pu être comme ça. Dieu aurait pu nous remettre dans le paradis terrestre. C'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Nous remettre dans le paradis terrestre. Et chacun d'entre nous, on aurait eu l'épreuve qu'Adam avait eue. Point de vue du paradis terrestre. Dieu aurait tout pardonné. Pour une fois, je te pardonne, mais ne recommence pas. Bon, ça, c'est une solution. Et vous voyez, si je regarde la parabole de l'enfant prodigue, tu vois, très beau, hein, les paraboles sont vraies sur un point. Si vous les appliquez matériellement et, j'allais dire, oui, un peu uniformément, c'est faux. La parabole de l'enfant prodigue ne nous fait pas comprendre le mystère du Christ crucifié. La parabole de l'enfant prodigue nous fait comprendre la gratuité de la miséricorde du Père. Et cette gratuité, elle existe. Dieu aurait pu faire ça. Dieu n'a pas voulu faire ça. Pourquoi ? Pour que nous comprenions mieux la grandeur de l'homme. Pour que l'homme, saint Thomas le dit à la suite des pères de l'Église, pour que l'homme comprenne qu'il reçoit du Christ une grâce plus grande. Notre Éden, notre paradis, ce n'est pas l'Éden d'Adam et Ève, c'est Jésus. C'est la blessure du cœur de Jésus. C'est Jésus qui est notre jardin fermé. C'est Jésus et Marie. Et d'une certaine manière, c'est encore plus juste de dire que c'est Marie. C'est la femme qui est donnée à chacun d'entre nous. Et qui est l'Éden, qui est le jardin clos, fermé. Réservé à Dieu et à tous les amis de Dieu. Vous voyez, Dieu fait quelque chose de totalement nouveau. Dieu n'aime pas les repeints. Le retour au paradis terrestre, ça aurait été un repeint pour ce grand artiste divin. Et Dieu fait quelque chose de tout à fait nouveau. Et ce quelque chose de tout à fait nouveau, dans la sagesse de Dieu, c'est le mystère d'incarnation. C'est de faire que l'homme uni personnellement au Verbe, va pouvoir racheter l'homme. Pour nous faire comprendre la grandeur de l'homme, l'homme en sort agrandi par le mystère de l'incarnation. Terriblement agrandi. Puisque dans le Christ, l'homme est Dieu. Ça, c'est fou. C'est la folie de la croix. C'est extraordinaire. Vous voyez, ça, le bon père de famille ne pourrait pas le faire. C'est là on voit que Dieu est Dieu, que Dieu est amour et que Dieu a un génie extraordinaire, d'une grandeur inouïe. Le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption, ça devrait nous mettre tout le temps devant cette chose inouïe. Dieu fait ça pour moi, pour chacun d'entre nous. L'Eucharistie est donnée à chacun d'entre nous. Pour bien nous faire comprendre que le mystère de la rédemption et le mystère de l'incarnation, c'est pour chacun d'entre nous. Alors, pour que l'homme sauve l'homme, par le mystère de l'incarnation, parce que l'homme est devenu Dieu, dans la miséricorde, et l'amour du Père. Et c'est aussi pour nous faire comprendre la gravité de la faute. Il y a toute une pédagogie divine. La croix est une pédagogie divine. C'est pas le terme. C'est une pédagogie admirable. Vous comprenez, l'enfant prodigue, il a tout dissipé. J'allais presque dire, c'est un peu trop facile, hein. Et dans l'irritation du frère aîné, il y a un peu de ça. C'est un peu trop facile. Pardonnez comme ça d'un seul coup. Puis on remet la robe merveilleuse au veau. Et celui qui a travaillé tout le temps. Pour montrer que c'est pas facile. Dieu lui-même envoie son Fils. Et le Fils portera en stricte justice toutes les conséquences du péché. Ça aussi, c'est admirable. Parce que ça fait comprendre le sérieux du péché. Ça fait comprendre que le péché détruit l'œuvre de la sagesse de Dieu. Ça fait comprendre que le péché est anarchique, qu'il détruit le bien, l'œuvre d'amour de Dieu. Et pour nous faire comprendre ça, il fallait que Dieu lui-même, par le mystère d'incarnation, c'est par le mystère d'incarnation, Dieu ne peut pas, par lui-même et en lui-même, porter le péché. Le péché ne peut pas cohabiter avec Dieu. Le péché ne peut cohabiter. Dans le cœur d'un homme Dieu. Mystère de l'agonie. Mystère de la croix. Jésus, dans son cœur d'homme, peut accepter d'être le seul responsable de toute l'humanité. Parce qu'il est l'homme parfait. Il est l'homme, nouvel Adam, responsable de toute l'humanité. Oui, nouvel Adam, responsable dans sa conscience d'homme, dans son amour. Plus on aime, plus on a le sens de la responsabilité. Plus on aime, on a le sens de la responsabilité. Jésus a un amour infini dans son cœur. Il y a une plénitude de grâce. Et dans son cœur d'homme, il y a un amour infini pour le Père et pour les hommes. Et c'est pour ça qu'il a le sens d'une telle responsabilité à l'égard de tous les hommes. Et qu'il va prendre sur lui toutes les conséquences du péché. Alors voyez, comment le mystère de la croix unit des choses qui, à première vue, semblent inconciliables. La miséricorde, la justice. La vérité et la gratuité. Tout ça est uni. La sainteté et la sagesse. Tout ça se trouve uni dans le mystère même de la croix. Et donc, dans le cœur blessé de Jésus crucifié. C'est dans le cœur blessé de Jésus crucifié que se trouve uni tout cela. Ça, c'est merveilleux. C'est quelque chose d'inouï. Quelque chose de tellement grand. Et c'est bien dans le cœur blessé du Christ crucifié. L'ultime moment de la révélation, c'est le coup de lance. Le geste, le coup de lance, selon l'évangile de Saint Jean. Et comme l'évangile de Saint Jean est le dernier moment de la révélation officielle, on peut dire que c'est vraiment le coup de lance qui blesse le cœur de Jésus, qui est l'ultime révélation, où nous découvrons comment l'amour assume. Dieu aurait pu faire autrement. C'est bien évident. Dieu aurait pu faire autrement. Jésus Fils de Dieu, aurait pu nous sauver autrement. Alors là, je crois que c'est aussi très important de bien réfléchir là-dessus. Il veut que ce soit l'homme qui sauve l'homme par le mystère de l'incarnation. Mais l'homme qui sauve l'homme par le mystère de l'incarnation, ça aurait pu se faire autrement. Puisque toutes les activités du Christ sont salvatrices et sont capables de sauver l'homme. Alors, je vais simplement énumérer quelques aspects pour que vous compreniez mieux. Il aurait pu sauver l'homme par son obéissance. L'obéissance à Marie. Dieu qui obéit à une femme. Dieu qui obéit à sa plus petite créature. En lui donnant autorité. Hein, je vous ai dit. Entre amis, on se donne mutuellement l'autorité en reconnaissant la compétence. Jésus fait ça à l'égard de Marie. Il lui donne autorité. Et Jésus obéit vraiment. Or, il y a d'actes d'obéissance que lorsqu'on obéit à une autorité reconnue, compétente, librement, Dieu, dans le cœur du Christ, reconnaît l'autorité maternelle de Marie. Il lui obéit. Il obéit à Joseph. Il aurait pu faire que cet acte d'obéissance soit l'acte de rachat, de satisfaction par rapport à l'orgueil. L'antithèse la plus violente par rapport à l'orgueil, c'est l'obéissance. On le sait bien. Pourquoi on n'a pas envie d'obéir ? À cause de notre orgueil. Et quand notre orgueil est très grand, et en acte, on n'obéit pas. Moi, obéir ? Celui-là, bien moins intelligent que moi. Je comprends rien. Aussi. Vous voyez la tentation permanente, hein ? La tentation permanente par rapport à l'obéissance. C'est de comparer. Petit orgueil, mon intelligence est plus grande. Donc je n'obéis pas. C'est la même chose par rapport à l'enseignement. Il y a une dose d'obéissance dans l'enseignement. On s'est aperçu des limites de celui qui enseigne. Il a tout le temps des limites. Parce qu'il a des limites, on n'obéit pas. Moi, je n'ai pas ces limites-là, donc je n'obéis pas. Mais l'orgueil nous empêche d'obéir. Bien, Jésus aurait pu sauver l'humanité par le point de vue de l'obéissance. J'énumère. Hein. Il aurait pu sauver les hommes par un acte d'adoration. Un acte d'adoration intérieur, un acte d'adoration au temple. Quand il chasse les vendeurs du temple, c'est un un acte merveilleux. Il corrige l'humanité qui ne sait plus distinguer le commerce et l'adoration. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Jésus montre la distinction entre le sacré et le profane. Il aurait pu nous sauver par un acte d'adoration, déblayant le terrain en renvoyant promener tous les commerçants. Il aurait beaucoup de travail aujourd'hui. Tous les commerçants installés dans le temple de Dieu qui font que le commerce empêche l'adoration. Donc Jésus aurait pu nous sauver par un acte d'adoration. Jésus aurait pu nous sauver par le travail. Allez, avec Joseph. Ça aurait été magnifique. Voyez ça. Jésus, premier jossiste, sauvant le monde par le travail. Extraordinaire, merveilleux. C'est le travail qui sauve le monde. C'est le travail qui doit sauver le monde. Le travail du menuisier, humble. Il aurait pu très bien faire ça. Je vous invite. confirme, ça aurait quand même une certaine allure. Il aurait pu sauver, quatrièmement. Vous voyez, c'est toutes les spiritualités que je nomme là. Hein. Vous allez voir, c'est très intéressant de faire ça. Et c'est très important. Il aurait pu sauver par l'enseignement. Aucun homme n'enseigne comme lui. Bon, il passe Socrate. Il est un super Socrate. Jésus, super Socrate. C'est vrai. On a fait Socrate, de Socrate à Jésus. Socrate à Jésus. C'est un dominicain qui a fait ça. Un professeur de théologie morale. Super Socrate, Jésus enseigne, admirable. Il a commencé à enseigner à 12 ans. Hein. Petit génie. Génie dans l'ordre de l'enseignement. Il a enseigné en interrogeant, mais en interrogeant de façon telle que les bons docteurs de la loi étaient battus. Il posait des questions que les docteurs de la loi ne voyaient pas. Vous êtes très intelligent pour interroger. C'est pour ça que je vous fais interroger. Pour éveiller votre intelligence. Quand on n'interroge plus, vous savez bien, le gosse interroge. Il interroge tellement que ses parents sont fatigués. Il interroge tellement que les professeurs sont fatigués. Alors qu'est-ce qu'on fait? Éteignoir. Il n'interroge plus. Alors au bout d'un certain temps, quand vous n'interrogez plus, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez. Suivez. Non, c'est la défaut terrible de l'école. Suis. Tu verras. Tu n'as qu'à suivre. N'interroge plus. Plus aucune autonomie d'intelligence. Cinquièmement, il aurait pu sauver le monde en étant thérapeute par le point de vue des miracles. Le cri charismatique. Le charismatique par excellence. Il n'y a pas eu un homme aussi charismatique que Jésus. Ah ça c'est sûr. Donc ça aurait pu être par le charisme de guérison. Il a guéri. Le charisme prophétique, il annonce ce qui va arriver. Il dit ce qui va arriver. Le charisme de chasser les démons. Vous voyez, tous les charismes. Je mets le miracle de guérison, le point de vue prophétique, le prophète, chasser les démons, après tout, c'est quand même. On met ça sur sa carte de visite. Moi, je suis celui qui chasse tous les démons. Il en avait, hein, quand il avait la femme, il en avait 7. 7 démons. Et 7, c'est un chiffre parfait, donc. Tous les démons s'étaient réfugiés là. Ils se trouvaient bien. Ils se trouvaient au chaud. Donc ils chassaient les démons. C'est bien comme charisme. Il aurait pu chasser tous les démons. Eh bien non. Jésus n'a pas voulu ça. C'est quand même important de se le rappeler, ça. Il n'a pas voulu que ce soit par un acte d'obéissance. Mettez à côté de l'obéissance l'humilité. Ah oui, il y a une spiritualité de l'humilité. Soyez des tout petits. Le plus imbécile que vous soyez, vous serez plus proche du Christ et vous serez plus sauvé. Ça existe, ce genre de spiritualité. Jésus n'a pas voulu sauver les hommes par un acte d'humilité, par un acte d'obéissance. Il n'a pas voulu l'adoration, par le travail, par l'enseignement, par les miracles, les prophètes, chasser les démons. Il aurait pu. Dans sa sagesse, il aurait pu faire ça. On aurait une spiritualité particulière. Eh bien non. Qu'est-ce qu'il a choisi? La croix. C'est l'œuvre de Christ. Ah, vous allez me dire, la croix fait la synthèse de tout. Oui. C'est vrai. La croix, c'est la plus grande humilité. C'est la plus grande obéissance. c'est la plus grande adoration. C'est le plus grand des travaux. Ça, c'est sûr. Parce qu'alors, on ne travaille plus sur du bois. C'est la chair du Christ qui est labourée. Qui est labourée par un autre. Qui se laisse labourer. La flagellation. La crucifixion. La croix, saint Augustin le dit, c'est là où l'enseignement du Christ devient parfait. Extraordinaire. Il dépasse tout. Et saint Augustin n'hésite pas de dire que la croix, c'est la cathédrale. Donc c'est là où il enseigne avec autorité les sept paroles du Christ. Miracle. Oui. Le charisme par excellence. La résurrection. Le miracle. Il a accepté de mourir pour ressusciter. Il a accepté d'être le grain de blé qui meurt, qui tombe, pour montrer toute la fécondité, la résurrection, la gloire. La prophétie, oui, à la croix, il est prophète. Il annonce la grande victoire de l'amour. Prophète d'amour, la victoire de l'amour. Chasse les démons, il sera jeté bas. Tout est présent à la croix. Vous voyez, tout ça, ça préparait. Vous pouvez mettre 6, 7, pour avoir le chiffre 7. Les grandes avenues, les grandes préparations. Tout ça préparait. Mais tout ça n'était pas la croix. Il a voulu que ce soit la croix. Et selon saint Jean, comprenons bien, hein, la croix, c'est la dernière semaine. Du repas de Béthanie au sépulcre. La croix, c'est ça. C'est la dernière semaine dans saint Jean. Il faut prendre toute la dernière semaine, si on veut comprendre. Le sommet, c'est le coup de lance. C'est le coup de lance. Puisque le sépulcre, il est caché. C'est l'enclos remis à la terre. Il est remis à la terre, mais ça fait partie de la dernière semaine. Il est remis dans le sépulcre, le jour du sabbat. Vous voyez que tout est présent. Donc, je ne peux pas réduire, comprenez bien, je ne peux pas réduire la sagesse chrétienne à l'obéissance, à l'humilité, au travail, à l'adoration, à l'enseignement, au miracle, guérison, miséricorde. C'est les grandes miséricordes du Christ. C'est les grands gestes de miséricorde. Je ne peux pas réduire toute la sagesse chrétienne à ça. C'est impossible. La sagesse chrétienne, c'est tout cela et quelque chose de plus que cela. Alors, quel est le plus qui permet d'unir tout cela? Vous voyez, si je vous ai donné ça, c'est pour que vous compreniez mieux l'intention profonde du Père sur son Fils bien-aimé qu'il nous donne. Tu as tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est le don de Jésus. Et le don de Jésus est plaigné que dans la dernière semaine, à la croix. La dernière semaine, comment tout ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est l'amour. La croix, c'est la manifestation de l'amour. C'est la grande manifestation de l'amour. Et c'est dans la dernière semaine où Jésus manifeste son amour. La sagesse chrétienne, c'est la manifestation de l'amour. C'est l'intelligence de l'amour. C'est la lumière dans l'amour. C'est ça la sagesse chrétienne, c'est la lumière dans l'amour. Alors là, on touche une plénitude. La vie chrétienne ne peut se comprendre que dans la lumière de la sagesse de la croix. Et Dieu aurait pu, hein, maintenir toujours ça, la possibilité pour mieux comprendre le choix du Père. Dieu aurait pu nous sauver par un seul acte d'adoration de Jésus. Il nous a sauvés par l'adoration de la croix. Il aurait pu nous sauver par l'enseignement de l'enfant Jésus à 12 ans. Il nous a sauvés par l'enseignement de la croix. Il aurait pu nous sauver par Jésus guérissant le lépreux, guérissant le paralytique, par un geste de miséricorde, charismatique. Il aurait pu faire ça. La miséricorde qui s'allie à la toute-puissance de Dieu. Il aurait pu. Non. Tout ça prépare, dispose. C'est le mystère de la croix qui nous est donné. J'espère que vous voyez bien ça. Alors maintenant, entrons dans cette dernière semaine. Vous voyez, c'est là l'importance de cette dernière semaine dans Saint Jean. Et c'est la dernière semaine qui nous apprend à regarder de fait notre vie chrétienne dans ce qu'elle a d'ultime. La dernière semaine, la grande semaine, c'est la seule semaine qui est littéralement une semaine. Les pères cappadociens aiment de ponctuer dans la théologie de l'économie divine les grandes semaines, la première semaine de la création. Vous comprenez très bien, premier jour, deuxième jour, troisième jour, septième jour, Dieu se repose. C'est la semaine de la création, c'est la semaine du Père. La deuxième semaine, c'est Jésus qui commence sa vie apostolique. Et la troisième semaine, la grande semaine, Jésus, c'est la seule semaine qui touche littéralement les jours d'une semaine. C'est très beau de voir ces trois semaines, la semaine du Père, du Fils et de l'Esprit. Pour bien comprendre cette ponctuation, et au sommet de cette dernière semaine, le coup de lance, la mort du Christ sur la croix. Alors, si on avait le temps, je dis bien si on avait le temps, on regarderait comment Jean nous donne la dernière semaine. Alors, lisez-la aujourd'hui très attentivement. Et chaque année, quand vous êtes dans la semaine sainte, lisez très attentivement la dernière semaine selon l'évangile de Saint Jean. L'onction de Béthanie, du chapitre 12 au chapitre 20. C'est Jean qui nous a donné la dernière semaine de la manière la plus forte qui soit. Et tout dans la dernière semaine, nous aide à découvrir la sagesse de la croix. Tout, absolument tout, rien n'est inutile. Mais tout dans cette dernière semaine est polarisé par la croix. Donc si on veut comprendre pleinement le mystère de la croix, comme sagesse, il faut regarder la dernière semaine. Nous n'avons pas le temps. Eh bien, puisque nous n'avons plus de conférences, alors je ne peux pas le faire avec vous. Je vais simplement avec vous regarder le mystère même de la croix lié à la gloire. Les deux versants du mystère de la croix. La croix, l'échec, le plus total qui soit. Et la croix, la victoire la plus grande qui soit. Les deux lectures, si vous voulez, comme on dirait aujourd'hui. On peut lire la croix comme l'échec le plus terrible qui soit. La lecture journalistique. Le journal Le Monde regarderait la croix de cette manière-là. Ça, c'est bien évident. Il n'y en aurait rien à dire. Mais oui, c'est sûr. Complètement écrasé. C'est évident. Complètement. Et il remarquerait tout. Il n'en raterait pas un. Pas un seul échec. Ils sont tous à présent. On peut avoir ce regard-là sur l'Église. Tous les échecs. Et on n'en rate pas un. Ça sert les ricanements du démon. Le démon rit à la croix. Le gros rire qui se veut intelligent et qui ne l'est pas. Et le sourire de Jésus et de Marie. Il y a ce contraste. Et le sourire de Jésus à Marie, c'est la vision intérieure. C'est tout à fait autre chose. Vous voyez, les apparences.